Savoie, le midi.
Ici Myriam Segal. Pas une heure de travailler, les centrales syndicales maraudent déjà les employés de la SQDC. Société québécoise du cannabis. Il lui manque un bras, il est handicapé au fédéral, mais pas au provincial. Et circulation, ce sera une fin de semaine d'enfer à Québec.
FM 93, ça me parle. On développe les dossiers, les enjeux sociaux, la vie en général. FM 93, vous écoutez, Segal Lavoie, le midi.
Bonjour Luc Lavoie.
Bonjour madame.
À la veille d'une fin de semaine où on nous annonce même un peu de soleil.
Ah ah.
Yes, yes.
Ah ah.
Ça valait la peine d'endurer la pluie toute la semaine. As-tu versé une larme hier à la cérémonie du Canadien de Montréal? En l'honneur de ceux qui ont gagné il y a maintenant 25 ans une Coupe Stanley à Montréal?
Ça m'a donné un petit coup de nostalgie, oui. Mm-hmm. Verser une larme, non. Je ne sais pas pourquoi. Là, bien que je dois dire que l'arrivée de Jacques Demers, qu'on sait maintenant qu'il est comme prisonnier de son corps, toute sa tête fonctionne, mais il est cloué à un siège roulant, puis un fauteuil roulant, et puis il peut pas parler.
Ouais.
Ron Fournier, le célèbre, m'a raconté comment c'était difficile de rencontrer Jacques Demers, parce que bien qu'il sait qu'il n'est pas capable de parler, il essaie quand même. Quand il voit quelqu'un, il reconnaît, il essaie quand même, puis il se force, puis il vient les larmes aux yeux, puis il finit par pleurer. Alors, quand j'ai vu Jacques Demers hier acclamé par la foule,
mais
oui,
y avait pas
ça,
l'air.
Ça m'a fait un petit pincement.
Il n'avait pas l'air de se rendre compte de ce qui se passait. Toi, tu me dis qu'il se rend compte de ce qui se passe?
Ce qu'on me dit, oui. On me dit oui.
Mais c'est terrible.
Il n'est pas beaucoup capable de manifester des émotions. Mais il paraît qu'il regarde les nouvelles, puis qu'il regarde le hockey à la télé. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Mais un homme qui a été si énergique et sympathique, faut le dire. C'est un gars sympathique. Oui. Là.
C'est les canaux de communication qui sont bloqués, c'est ça?
Mais tu imagines ce que c'est comme tragédie.
Puis pour un gars dont on dit que le principal succès de la Coupe Stanley de 93, c'est qu'il avait réussi à insuffler, à communiquer à ses joueurs la conviction qu'ils étaient capables.
Ouais.
S'ils n'étaient pas les meilleurs au monde.
Moi, on m'a toujours dit que Demers, sur le plan technique, n'était pas un très grand coach, mais que sur le plan motivation, sur le plan communication, il était absolument exceptionnel. Et en 93, les joueurs de cette édition-là vont le dire. Puis on se souvient les montagnes russes que ça avait été. Enfin, on se souvient. Toi et moi, Myriam, on se souvient. On a quand même des auditeurs qui doivent pas se souvenir beaucoup.
Tu te rends-tu compte qu'il y a plein d'adultes au Québec actuellement qui se rappellent pas qu'on a déjà gagné une Coupe Stanley?
C'est d'une tristesse. C'est pour ça, hier, que j'ai pas trouvé ça si triste que ça. C'est que la glorieuse dynastie, la glorieuse équipe, et puis on me dira ce qu'on voudra à propos du plafond salarial qui empêche maintenant de bâtir des dynasties, blablabla. Il reste que des équipes qui traversent le temps en étant toujours capables d'offrir une performance d'excellence.
Ils sont toujours capables de faire les séries, mais ils sont pas toujours capables de gagner la Coupe Stanley. C'est correct,
ça, c'est autre chose.
Ouais.
Mais nous autres, là, on veut la Coupe Stanley, mais on n'est même pas capable de faire les séries. En tout cas, on verra.
Mais
et puis, comme tu sais, au Québec, là, les Canadiens font deux victoires d'affilée, comme ils ont fait, contre deux bonnes équipes, contre Toronto et Pittsburgh. Formidable. Là, on pense à la Coupe, tu imagines? Là, tu arrives contre les Kings de Los Angeles, qui est loin d'être une mauvaise équipe, mais c'est une équipe dans sa phase vieillissante.
Ouais.
Toutes les vedettes de Los Angeles sont des vedettes qui ont été recrutées pour gagner la Coupe Stanley il y a quelques années. Alors, Drew Doughty, c'était un formidable défenseur. Jeff Carter, ces joueurs-là sont formidables. Anze Kopitar, mais ils ont tous passé l'âge de péremption. Pas de péremption, mais ils sont plus les ultra-rapides joueurs qu'ils ont été. Alors, on se fait battre 3-0.
Hier, j'ai quand même été surprise de voir que l'ovation n'avait pas duré si longtemps que ça.
Non.
Mais celle qui a été la plus forte, c'est quand Serge Chavard et Jacques Demers ont été présentés. Je me suis demandé si les gens manquaient d'enthousiasme, notamment parce qu'ils ne voyaient pas forcément. T'sais, ils ont mis dans les galeries au lieu de les mettre sur la glace. Écoute comment ça a sorti. Oui.
Le directeur général et l'entraîneur-chef, Serge Chavard et Jacques Demers. «
Très touchant.
Oui. Mais tu sais, il y avait l'inconvénient d'avoir fait les choses comme ils l'ont fait hier, là, c'est qu'il y avait deux, trois innocents qui veulent absolument passer à la TV puis qui s'installaient devant Demers, qui lui est assis dans sa chaise roulante.
Ah, ben ça. Je suis pas sûr que c'était la meilleure mise en scène, mais peu importe. Serge Savard, ça va rester une légende. 10 Coupes Stanley, dont 2 comme directeur-gérant. La série du siècle de 72, capitaine des Canadiens. Écoute, c'est pas rien, c'est Serge Savard. Ouais. Après Jean Béliveau, là, c'est Serge Savard maintenant. Et Jacques Demers, ben, c'est loin d'être rien, Jacques Demers. Là. C'est un coach là, qui a eu du succès immense à Saint-Louis, qui a eu du succès à Détroit, qui a eu du succès à Montréal. C'est un formidable coach et de le voir cloué comme ça, ça nous a rappelé notre propre fragilité.
Ben, la même journée que Joanne Fontaine meurt, tu sais, oui, effectivement. Luc, est-ce que je peux rire de toi un peu?
Ça me ferait tellement plaisir.
OK. Je vais rire de toi un peu parce que tu as fait preuve d'un optimisme absolument délirant quand tu nous as dit que probablement que d'ici un an et demi, il y aurait une grève à la SQDC, c'est-à-dire à la Société québécoise du cannabis.
Tu fais bien rire de moi parce que j'en reviens pas de m'être trompé tant que ça.
Tu t'es trompé pas à peu près parce que là, ils ont même pas une heure d'ouverture de fête. Il n'y a pas encore une succursale d'ouverte. Que déjà les syndicats rôdent et maraudent autour des employés de la SQDC puis parlent de leur trouver, de leur obtenir des augmentations de salaire pour monter jusqu'à 19, 20 $ de l'heure.
Alors qu'ils sont à 14, je trouve ça indécent. Je trouve ça indécent. T'sais, il pourrait pas être un petit peu plus subtil? Et là, ça soulève la question de pourquoi veux-tu bien me dire pourquoi ils ont choisi de mettre ça entre les mains d'une société d'État? Parce que ce qu'on va avoir, là, et là, ça va devenir là, insupportable, là, c'est qu'on va se retrouver avec un réseau de vendeurs de potes, de boutiques de potes, qui va perdre de l'argent. C'est ça qui va arriver, ben, tu comprends-tu? Donc, ils vont être obligés de monter leur prix, puis le marché noir va reprendre le contrôle en deux temps, trois mouvements. Et si ceci ne suffit pas, une petite greffe par-ci, une petite greffe par-là. Mais il y a quelqu'un qui me disait, je me demande si c'est pas toi. Oui, c'est toi. C'est toi. Qu'il se peut bien, parce que c'est une tactique syndicale, que quand ils ont ouvert les postes, puis qu'ils ont dit ceux qui veulent appliquer pour avoir un emploi.
Te rappelles-tu qu'on était surpris de la quantité de CV qu'ils ont obtenu, alors que les employeurs ont de la misère que le diable à obtenir des CV? Mm-hmm. Ils en ont obtenu pas mal. Je me souviens plus, c'était quoi?
4 000.
Alors qu'il y avait à peu près 200 jobs d'ouvertes.
400.
Un jour, ils vont en avoir 1 000, OK? Oui. Et là, ils ont obtenu un tas de CV, alors que c'est difficile actuellement de recruter.
C'est alors, la vraie question...
Mon impression, là, c'est que parmi les CV qu'ils ont reçus, il y a des agents syndicaux qui sont là pour syndiquer
des agitateurs, oui, qui sont là. Et souvenons-nous que le Code du travail du Québec, mesdames et messieurs... Écoutez bien ça, là, parce qu'on n'en est pas toujours conscient. C'est la seule juridiction d'Amérique du Nord. Et sachez qu'il y a un gouvernement NPD en Colombie-Britannique et puis qu'il y en a un en Alberta. La seule juridiction en Amérique du Nord où on applique le concept américain de ce qu'ils appellent le card check, c'est-à-dire que, mettons que tu as 100 employés, tu n'as pas besoin d'avoir un vote secret. Non. Dès lors que tu as 51 cartes qui portent une signature, bang, t'es décrété syndicat. Et là, t'es obligé de t'asseoir avec eux puis de négocier. Alors, tu infiltres, comme tu me le décrivais, des agitateurs, des... Bon. Et... Je sais pas si je les appellerais agitateurs. Des militants.
Ce sont des militants syndicalistes dont la mission n'est pas de travailler pour l'entreprise, mais de syndiquer leurs collègues.
C'est ça. C'est le plus rapidement possible de signer des cartes. Alors là, t'as deux syndicats, un CSN puis un FTQ, puis un troisième, je pense, qui s'affrontent. Mmh. Écoute, tu l'as dit au départ, même pas une heure de travailler.
Ils n'ont pas une succursale ouverte.
Ça me met hors de moi, cette histoire-là. Ça me met hors de moi parce que on dirait qu'on fait exprès, comprends-tu, pour perpétuer cette affaire-là. Alors, regarde l'histoire des CPE, je la reprendrai pas du début, certainement pas, mais le fait est qu'après 23 grèves en 20 ans, c'est-tu vraiment bon? Ah, que c'est bon. Puis là, au début, ils étaient des gardiennes, ils sont devenus des éducatrices, je pense qu'ils sont devenus, ça demande un doctorat parce qu'on veut les payer plus cher, parce que les cotisations syndicales sont en pourcentage sur le revenu, et blablabli,
Je l'ai calculé, sais-tu ce que ça représente en cotisation syndicale pour la centrale? Là, je te parle pas du syndicat local. Oui. Ça représente environ 800 000 $ par année.
Et...
Tu comprends-tu que les syndicats, là-dedans, regardent leur intérêt?
Est-ce que les gens vont réaliser un jour? Je pense que parmi nos auditeurs, il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. Puis d'ailleurs, tu vas rappeler les numéros puis les façons de nous rejoindre. Mais avez-vous remarqué à quelle vitesse tout ça se déroule? Avez-vous remarqué qu'en Ontario, qui est quand même pas le goulag, là, en Ontario, ils ont mis ça entre les mains du secteur privé. Vous souvenez-vous qu'Alain Bouchard, un des grands entrepreneurs de l'histoire du Québec, a dit « Je vais y vendre, moi, les produits en question dans mes couche-tard. » Hey! Dans un commerce? Mais c'est quoi l'affaire?
Vous allez
c'est
faire un commerce de potes? Vous allez faire de l'argent avec ça.
Vous allez faire de l'argent avec ça? Ben voyons donc, faire de l'argent, c'est un vrai péché.
Parti comme on est là, on est à peu près sûr qu'on ne fera pas une scène avec le pote.
Ah, ça tu peux être sûr.
Puis là, t'as la CSN, t'as la FTQ et t'as le SCFP, le Syndicat canadien de la fonction publique.
Qui est un affilié de la FTQ.
Non, en fait, il y a deux affiliés de la FTQ qui se chicanent là-dedans, plus la CSN.
Alors là, ils sont là, puis ils se relancent, c'est comme la surenchère, là. Écoute, 14 piastres de l'heure, ben, ça n'a pas de bon sens. Après tout, on leur fait vendre du pot. Hein, ouais. Mais dis, quand tu fais le geste d'acheter ton pot qui est déjà enveloppé puis préparé pour toi, là, c'est-tu bien différent d'acheter un Joe Louis? Tu sais, c'est quoi l'affaire, là? Ah non, je suis sûr que là, les syndicats vont inventer une patente. Il va falloir leur donner une formation spéciale pour qu'ainsi ils deviennent conseillers en pot.
C'est ça qu'ils font? C'est ça qu'ils font actuellement. Ils sont en train de les former. Et la condition, c'est de pas avoir été consommateur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme conseiller.
Ton conseiller en vin de la SAQ qui te coûte 25$ de l'heure, là.
Faut qu'il soit l'accordaire.
C'est ça.
Ça existe-tu encore?
Non. Je sais pas si ça existe encore. Quand j'étais jeune, ça existait. J'entendais mes parents qui disaient, sais-tu qu'un tel est rendu l'accordaire? Ah, ouais.
C'est ça. Autrefois, dans les années 50-60, avant qu'une fille se marie, souvent le père de la fille exigeait du futur gendre qu'il rentre dans l'accordaire.
Comme on dit, ils prennent pas un coup, ils vivront pas plus vieux, mais le temps va leur paraître plus long.
Mais tu sais, je soupçonne qu'il y ait infiltration parce que moi, je me rappelle le syndicat à Jonquière.
C'est ce que tu me
disais, le syndicat du Walmart à Jonquière.
T'sais, raconte Walmart, ça parce que c'est intéressant.
Jonquière est d'ailleurs un des rares endroits où un Walmart a fermé. Là,
oui.
Parce que ils avaient rentré le syndicat. Et la façon dont ça s'était fait, c'est la presse qui avait révélé ça dans une enquête. C'est que les syndicats AFL-CIO, qui est le gros syndicat américain, la grande centrale syndicale américaine avait syndiqué des quincailleries, je pense, en Californie. Et le principal concurrent de ces quincailleries, c'était le Walmart.
Oui.
Puis là, ils se rendaient compte qu'ils ne pouvaient pas obtenir des conditions intéressantes dans ce réseau-là tant qu'ils ne rentraient pas dans les Walmart aussi. Il fallait qu'ils rentrent dans les deux concurrents s'ils voulaient faire monter les salaires et les cotisations par ricochet. Si bien qu'ils avaient regardé la carte de l'Amérique du Nord. Ils avaient dit, où c'est que les lois sont les plus permissives pour la syndicalisation? Ils avaient dit Québec. Et où est-ce que les gens sont les plus favorables aux syndicats? Ils avaient dit Saguenay.
Parce qu'il y avait la tradition syndicale de l'alcan puis tout ça, là.
Exact. Parce qu'il y avait, oui, effectivement, le taux de syndicalisation était plus élevé. Puis les gens voyaient d'un bon œil les syndicats. Si bien que c'est comme ça qu'ils ont choisi que le combat allait se faire à Jonquière. Et ils ont fait exactement, d'après le reportage qui était sorti à l'époque, ce que je te décris là, c'est-à-dire qu'ils ont fait embaucher des gens qui travaillaient pour Walmart, mais qui en réalité travaillaient pour le syndicat.
Et là, ils ont fait signer leur carte, puis bang, Walmart s'est retrouvé devant un syndicat. Et Walmart, là-dessus, je m'incline devant leur franchise. Walmart le dit ouvertement. Nous ne voulons pas de syndicats dans nos murs. Nous ne voulons pas de syndicats dans nos murs. Et
note que Walmart a fini par perdre en cour suprême, je pense, et a dû rembourser. Mais ils ont fermé pareil.
Oui, puis ils ont le droit de fermer.
Et tu sais que la zone où était le Walmart à Jonquière n'a jamais redémarré sur le plan commercial.
Ben
jamais.
Oui, évidemment, c'est énorme comme perte. Et les gens qui ont perdu leur emploi, sont-ils fiers d'eux, les syndicats? Ils aiment-tu ça? Ils se trouvent fins, ils se trouvent beaux? Ah,
c'était pour la cause.
Je veux dire, moi, j'ai travaillé comme consultant sur la faillite de Eaton. Et c'est pas compliqué pourquoi ils ont fait faillite, Eaton. Il y avait un syndicat qui était là depuis tellement longtemps que les fonds de pension les tuaient puis les tiraient vers le bas. Puis en plus, tout le commerce au détail changeait. Mais il y avait des planchers d'emploi, puis des bébelles, puis des cloisons. Bang! Ils ont viré en faillite.
Il est 11h15. Une petite pause.